Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Des obus de mortier et des canons, des navires d'interception pour les gardes-côtes, des avions Mirage et des chars Leclerc. Voilà, selon l'énumération faite ces jours-ci par France Info, le type d'armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis est susceptible d'être utilisé dans la guerre que mènent ces deux pays, avec d'autres, au Yémen. Une guerre terrible, plus de 10 000 morts depuis septembre 2014, de très nombreux civils. Les hôpitaux, les écoles sont visés, les lois de la guerre sont bafouées, l'ONU en a fait le constat. Dans ces conditions, l'usage d'armes françaises dans un tel conflit pose question. La ministre des Armées était interrogée à ce sujet vendredi dernier sur France Inter. Qui pouvait imaginer la survenance de ce conflit ? A répondu Florence Parly, expliquant ensuite que si l'utilisation des armes vendues est contrôlée en amont, elle l'est plus difficilement une fois la vente réalisée. Le traité sur le commerce des armes, adopté par les Nations Unies en avril 2013, prévoit pourtant des règles qui visent à arrêter toute circulation d'armes lorsque des atteintes graves aux droits humains sont constatées. Alors peut-on moraliser les ventes d'armes ? Eh bien, c'est la question dont nous allons discuter ce soir avec nos trois invités. Hélène Leger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'association ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Vous y êtes responsable des programmes Maghreb et Moyen-Orient. ACAT qui va lancer la semaine prochaine une campagne d'interpellation destinée au gouvernement. Bon, on aura l'occasion d'en parler dans le cours de cette discussion, à laquelle participe également Jean-Pierre Molny. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous y êtes responsable des études liées à l'industrie d'armement et aux ventes d'armes. Et puis notre troisième invité, elle est en duplex des studios de France Bleu Isel à Quimper. Il s'agit de Patricia Adam. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez aujourd'hui l'Observatoire Défense de la Fondation Jean Jaurès, après avoir été la présidente de la Commission de la Défense de l'Assemblée Nationale. C'était lorsque vous étiez députée, il y a quelques mois encore, députée du Parti Socialiste. Alors la première question s'adresse à vous trois, en tout cas à celui ou celle qui parmi vous trois voudra bien y répondre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer, je voudrais donc qu'on commence sur le conflit au Yémen, avec certitude que des armes françaises sont utilisées dans cette guerre, ou bien est-ce qu'on peut seulement le supposer, Hélène Leger ?
Oui, on peut l'affirmer. Enfin, c'est pas vraiment un secret. Les industriels français, d'ailleurs, le disent. Il y a des armes françaises qui sont utilisées au Yémen. Après, la question qui se pose, enfin, la question qu'on pose, nous, à la CAT, c'est les armes françaises qui sont utilisées, quand est-ce qu'elles ont été vendues à ceux qui les utilisent, notamment à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.
Est-ce que vous êtes aussi affirmatif, Jean-Pierre Molny ?
Il y a de toute façon des armes que vous l'avez rappelé d'ailleurs, qu'on a vendues aux Émirats Arabes Unis, les chars Leclerc, mais c'est daté de 1993, hein, c'est maintenant 25 ans. Les Mirage 2000, ça doit être à peu près il y a une vingtaine d'années, donc on n'avait pas de conflit au Yémen à cette époque-là. Éventuellement, la question qui peut se poser, c'est les armes qui sont vendues aujourd'hui, que ce soit à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, mais là, il n'y a pas d'embargo sur les exportations d'armement sur ces deux pays. La question qui peut se poser, c'est si ça, les armes sont utilisées en contrevenant à ce qui est écrit aujourd'hui dans le traité sur le commerce des armes et ou dans la position commune de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment en violation du droit de la guerre, quoi, notamment
alors,
sur le traité sur le commerce des armes.
Ce sera justement l'objet de la discussion qu'on va avoir jusqu'à 19h, mais pour poursuivre ce premier tour de table, même question à vous, Patricia Adam, et peut-être une question subsidiaire, c'est-à-dire si cette utilisation aujourd'hui d'armes françaises, alors on verra tout à l'heure le distinguo nécessaire entre armes vendues avant le début du conflit, puis armes vendues éventuellement pendant le conflit, mais si cette utilisation est avérée, est-ce que ça pose d'une manière au moins indirecte une responsabilité de la France dans cette guerre ?
La question, c'est pas de savoir si c'est une responsabilité de la France, c'est puisque la France répond à un certain nombre de traités. Je pense à ce qui a été cité par Jean-Pierre Molny à l'instant, l'arrangement de Wassenaar, qui est un accord qui regroupe 41 pays dans le monde qui se sont donné des règles par rapport à l'exportation d'armement. La France en fait partie et respecte ces règles. Il y a un rapport rendu tous les ans au Parlement. Il y a des débats. Il y a des accords de défense aussi qui sont débattus également au Parlement, et bien sûr des directives européennes. Donc il n'y a pas de secret ou de choses cachées. Et je crois que c'est important.
Vous dites que ça ne pose pas la question de la responsabilité de la France. Si, quand même, il y a au moins une responsabilité morale, même si elle n'est pas directe, mais au moins indirecte. Si des armes françaises servent dans un conflit.
C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que la France répond à. Quant à l'export de l'armement, elle respecte tous les traités qui aujourd'hui existent au niveau mondial, au niveau européen, et avec aussi des rapports qui sont rendus au sein du Parlement. Donc il y a la possibilité de contrôler ce qui se fait. C'est déjà important, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays aujourd'hui qui font de l'exportation d'armement sans qu'on sache véritablement ce qui a été exporté.
Hélène Leger.
Oui, alors... Moi, évidemment, en tant qu'ONG, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce qui est dit. C'est vrai que le rapport présenté au Parlement par le ministère des Armées chaque année donne quelques informations sur les exportations de la France, mais le rapport est très peu détaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations sur les types de matériel vendu, sur la quantité de matériel vendu, la date des prises de commandes, la date des livraisons, le destinataire final, l'utilisation finale, bref, tout ce qui permettrait au Parlement de faire un vrai contrôle sur la conformité des licences octroyées par les autorités françaises et sur les livraisons effectuées, cette conformité par rapport aux engagements internationaux de la France. Et rien ne laisse à penser, là, dans le cadre du conflit yéménite, et pas seulement dans le cadre du conflit yéménite, en l'occurrence, rien ne laisse penser que la France respecte ses engagements internationaux, dans la mesure où, on le sait, la France a autorisé des exportations d'armement depuis le début du conflit, malgré la connaissance de la commission de crimes de guerre par certaines parties au conflit, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc, on ne dit pas que c'est légal ou pas, on se pose la question.
Sur cette question du contrôle et de l'information du Parlement, est-ce que vous, Patricia Adam, quand vous étiez présidente de la commission défense de l'Assemblée nationale, vous saviez avec exactitude quels étaient les types d'armes qui étaient vendues, à quel pays précisément et pour quels usages ?
Le Parlement est informé, et le ministre, c'était Jean-Yves Le Drian à l'époque, se rendait pratiquement tous les mois devant la commission de la défense, et à tout moment, les questions pouvaient lui être posées. Et les questions, je peux vous assurer, lui ont été posées. De la même façon...
Est-ce qu'il y répondait à ces questions ?
Pardon ?
Est-ce qu'il y répondait à ces questions ?
Bien sûr qu'il y répondait. Oui, tout à fait, il y répondait. Alors, de la même façon, les industriels étaient également invités à venir devant la commission. Moi, je leur ai demandé de venir à plusieurs reprises. Et bien sûr, ils ont répondu également à ces questions. Je crois qu'il faut quand même le dire. Alors après, la question du contrôle, puisque bien sûr, la décision qui est prise est une décision qui relève de l'exécutif, sous l'autorité du Premier ministre. La question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut donner beaucoup plus de pouvoir au Parlement ? Moi, j'en suis convaincue. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui pour suivre l'ensemble de ces exportations, parce que je rappelle quand même que ces exportations sont très importantes, puisqu'on est arrivé dans les dernières années à 14 à 20 milliards d'exportations pour la France, pour ses industries, c'est le contrôle parlementaire. Et je pense que le contrôle parlementaire aujourd'hui n'est pas suffisant. Et qu'il faudrait dans ce domaine une délégation parlementaire composé de spécialistes de tous les groupes politiques qui permettraient, a posteriori, de contrôler ce qui se fait.
Alors Jean-Pierre Molny, sur cette question du contrôle parlementaire, qu'est-ce que vous pensez du niveau actuel du contrôle en France aujourd'hui ? Et peut-être que si on le compare à ce qui peut se passer dans des pays équivalents, est-ce qu'on est plutôt dans un contrôle qui mérite justement d'être grandement amélioré, ou bien est-ce que c'est pas si mal que ça pour l'instant ?
Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a, encore une fois, il n'y a pas d'embargo sur les exportations d'armement en direction des pays belligérants dans le conflit du Yémen. Donc, il n'y a pas d'obligation, d'interdiction absolue de vendre des armes à ces pays. Maintenant, quand on vend des armes à ces pays, il faut faire, encore une fois, attention à respecter à la fois la position commune de l'Union européenne et le traité sur le commerce des armes. Et encore une fois, il ne faut pas que ces armes soient vendues de telle manière qu'elle viole le droit humanitaire, c'est-à-dire en fait touche des civils et non uniquement des belligérants.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation d'information déjà ?
Je vais y revenir. Sur le contrôle, aujourd'hui, on a un rapport au Parlement sur les exportations d'armement qui est certainement un des meilleurs au niveau de l'Union européenne. On a, si vous regardez, et le rapport est en ligne hein, sur le site du ministère des Armées, tout ça est consultable par tous les citoyens, on trouve très exactement le montant des livraisons à l'Arabie Saoudite chaque année et les licences qui sont octroyées selon la munition list de l'Union européenne qui est répartie en 22 catégories. Donc on a quand même des choses assez précises. Maintenant, on peut toujours aller plus loin. Et dans ce cas précis, la proposition que fait Patricia Adam, c'est-à-dire d'avoir un contrôle a posteriori qui soit certainement plus poussé sur les exportations d'armement, notamment dans le cas de figure du Yémen, serait certainement effectivement une excellente chose et ça renforcerait le contrôle en France.
Donc vous nous dites l'information, elle existe, on peut la trouver assez facilement. Dans le communiqué qu'a publié l'ACAT la semaine dernière, Hélène Legé, suite aux propos de la ministre des Armées, dont on va écouter un extrait d'ailleurs dans un instant. On peut lire ceci. Depuis mars 2015, il semble que l'État français a continué à délivrer des licences d'exportation d'armement vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, que de nouveaux contrats ont été conclus par des entreprises de défense françaises avec ces deux pays et que du matériel militaire leur a été effectivement livré, c'est-à-dire depuis mars 2015, c'est-à-dire depuis le début de ce conflit au Yémen, dont la façon dont il est mené a été condamnée, hein, c'est de la part des deux côtés du conflit. Est-ce que ces informations-là, vous les avez trouvées justement en allant sur le site du Parlement? Ou bien est-ce qu'il a fallu aller les chercher ailleurs parce que vous ne trouviez pas ce que vous souhaitiez?
En fait, il y a différentes sources d'informations, comme vous le mentionniez. Donc il y a un rapport annuel qui est présenté au Parlement, mais ce rapport annuel, il n'est pas du tout détaillé. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, en 2016, la France a livré à l'Arabie Saoudite 1,85 milliard d'euros de matériel, mais on ne sait pas quel est ce matériel. C'est pas mentionné s'il s'agit de chars, s'il s'agit de quoi que ce soit. Donc il faut se tourner vers le rapport, vers un autre rapport qui est un peu plus précis en termes de précision du matériel concerné. Il faut se tourner vers le rapport présenté chaque année par la France, envoyé chaque année par la France au secrétariat du traité sur le commerce des armes, qui mentionne un peu plus en détail le type de matériel livré. Donc on a des informations officielles de ce type. Et puis après, il y a d'autres informations qui sont fournies notamment par notre partenaire, l'Observatoire des armements, qui fait un formidable travail de documentation de matériel livré, de matériel exporté, aussi de contrats conclus. Et donc oui, on a des informations officielles et non officielles sur le maintien du commerce, enfin le maintien des ventes d'armes depuis le début du conflit. Mais juste une petite précision, ce qui pose problème en l'occurrence, comme ça a été rappelé par les autres intervenants, c'est pas qu'il y a un conflit, c'est que ce conflit donne lieu à des violations graves du droit international humanitaire et qu'on exporte du matériel pouvant être utilisé pour commettre ces violations graves du droit international humanitaire. Donc ce n'est pas tous les matériels militaires qui doivent, toutes les exportations qui doivent cesser. C'est l'exportation de matériel pouvant être utilisé pour commettre des violations graves du droit international humanitaire.
Le droit international, il est notamment par rapport au commerce des armes régi par ce traité sur le commerce des armes qui date de 2013, qui est entré en vigueur fin 2014, que la France a non seulement signé et ratifié. Est-ce que ça veut dire que pour vous, je vais redonner bien sûr la parole à Patricia Adam et à Jean-Pierre Molny, mais est-ce que ça veut dire que pour vous, Hélène Legé, si l'on appliquait véritablement ce traité sur le commerce des armes, la France aurait dû arrêter de livrer de l'armement à l'Arabie Saoudite parce que certains droits humains sont bafoués dans ce conflit?
Alors le problème, c'est que comme le commerce des armes est couvert d'une certaine opacité, on n'a pas toutes les informations qui nous permettent de dire que toutes les livraisons d'armes et toutes les licences octroyées sont illégales au regard du traité sur le commerce des armes. C'est pour ça qu'on demande la création d'une commission d'enquête parlementaire pour avoir les informations et pour savoir si effectivement la France a autorisé l'exportation de matériel militaire pouvant être utilisés pour commettre des crimes de guerre. On a, d'après les informations qu'on a, il y a effectivement, parmi le matériel militaire exporté, du matériel pouvant être utilisé dans le cadre du conflit yéménite. Donc on pense que, possiblement, ces livraisons sont illégales.
D'après les informations dont vous disposez, Patricia Adam et Jean-Pierre Molny, comment est-ce que vous répondez à cette question, Patricia Adam ?
Écoutez, moi je ne sais pas si c'est illégal. Moi, je m'aventurerai pas dans un constat de ce type. Ce que je sais, c'est que à chaque fois qu'on a demandé au gouvernement et en l'occurrence au ministère de la Défense des éléments, on a eu les réponses. Donc ça, c'est seulement. Mais maintenant, il faut que le Parlement joue son rôle. Et le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'exécutif. Et c'est pour ça que je pense que les outils que possède aujourd'hui le Parlement ne permettent pas de répondre à toutes ces questions, comme le dit madame. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas... Non pas... Alors, on peut faire une commission d'enquête aujourd'hui, ce qui permettra de traiter la question du Yémen aujourd'hui, mais je pense que ce contrôle, il doit être continu. Et pour qu'il soit continu, il faut qu'il soit réalisé par des parlementaires avertis sur ces questions, qui sont en capacité d'aller chercher les informations partout où elles se trouvent. C'est un travail très, très complexe, très difficile à mener, qui demande aussi à avoir une expertise de ces questions. Et ce qui nous manque aujourd'hui au sein du Parlement, moi j'ai présidé une délégation avec sept autres parlementaires sur le renseignement. C'est une délégation permanente du Parlement. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui en matière de contrôle des exportations, c'est-à-dire renforcer les pouvoirs du Parlement. Moi, je pense que c'est essentiel, parce que effectivement, quand les matériels ont été livrés, eh bien, il n'y avait pas cette guerre civile au Yémen. Aujourd'hui, cette guerre civile qui est dramatique, hein, puisqu'elle touche surtout beaucoup de civils, pose effectivement question. Et il faut qu'on puisse contrôler, voire prendre certaines décisions, et que le gouvernement puisse rendre compte auprès du Parlement et à l'opinion publique.
Juste d'un mot, et vraiment brièvement, Patricia Adam, vous évoquez l'hypothèse d'une commission d'enquête. Est-ce que vous y seriez favorable ?
Oui, bien sûr, mais il faut toujours être favorable à des commissions d'enquête, bien évidemment. Mais je pense que des commissions d'enquête doivent être composées de personnes qui connaissent bien ces sujets de défense et relations internationales. Et c'est pour ça que je crois beaucoup plus à un débat et à un contrôle permanent d'une délégation à créer au sein du Parlement pour contrôler les exportations. Ça me semble beaucoup plus profitable et beaucoup plus productif en termes de contrôle.
Jean-Pierre Molny, est-ce qu'on peut répondre à la question suivante de manière un peu claire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les armes françaises qui sont donc manifestement utilisées dans ce conflit au Yémen ne le sont pas en contravention avec ce traité sur le commerce des armes qui prévoit qu'on essaie de stopper leur circulation s'il y a de graves atteintes aux droits humains. Il y a de graves atteintes aux droits humains aujourd'hui au Yémen. Donc est-ce que ça ne suppose pas qu'il y a une utilisation qui est illégale, même si vous nous avez bien expliqué hein, tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'embargo aujourd'hui sur ces ventes d'armes. Mais là, on est sur la façon dont on les utilise qui peut poser problème.
Ben, en fait, on ne peut pas aujourd'hui l'affirmer ni dans un sens ni dans l'autre. Parce qu'effectivement, il faudrait avoir des observateurs sur le terrain qui puissent le faire le rapport direct entre le fait que des civils sont tués, que l'usage des armes a été fait en contravention du traité sur le commerce des armes. Parce que ça aussi, c'est une difficulté. On peut très bien vendre une arme et que cette arme ne soit pas utilisée en contravention du traité sur le commerce des armes. Ce qui est écrit dans le traité sur le commerce des armes, c'est qu'il faut avoir une raison prépondérante de penser que l'arme est utilisée en violation du traité sur le commerce des armes. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Patricia Adam. La commission d'enquête, c'est très bien, mais j'ai envie de dire c'est un one shot. Ça pourrait être une mission d'information aussi. L'idée d'avoir une délégation parlementaire sur les transferts d'armement, effectivement, ça permettrait d'avoir
quelque chose de plus pérenne.
Oui, c'est ça. Quelque chose de plus pérenne et qui permettrait sans doute d'entrer un peu plus dans les détails sur les questions de licence d'exportation. Pour moi-même, pour avoir travaillé à un moment donné dans une autre vie sur une mission d'information sur le Rwanda, on avait eu accès à ce moment-là à toutes les licences d'exportation qui avaient été délivrées par la France. Et là, on avait quelque chose d'extrêmement précis sur ce qui avait été fait.
Hélène G.
Moi, j'ajouterais deux choses. Effectivement, nous aussi, hein, on est pour le renforcement d'un contrôle parlementaire sur le plus long terme. Le fait est que ce qui se passe autour du conflit yéménite est suffisamment choquant pour que ça nécessite la création d'une commission d'enquête, ou en tout cas potentiellement choquant, dans la mesure où l'Arabie Saoudite est quand même le deuxième acheteur d'armes françaises, et les Émirats Arabes Unis sont sixième, et dans la mesure où on continue à se féliciter de leur vente des armes dans le contexte yéménite. J'ajouterai une deuxième chose. Le traité sur le commerce des armes et la position commune sont basés sur la notion de risque. C'est-à-dire que ces deux textes font interdiction aux États de vendre des armes à des pays, des armes qui pourraient être, dont il existe un risque que ces armes puissent être utilisées pour commettre des crimes de guerre. En quelque sorte, peu importe que ces armes ensuite soient effectivement ou non utilisées pour commettre des crimes de guerre. Là, on n'a pas la preuve à ce jour, au Yémen, que des armes françaises ont été utilisées pour commettre des crimes de guerre. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un risque ? Et ce risque, aujourd'hui, vu le contexte yéménite, il existe.
Alors, ce risque, il existe aujourd'hui. Est-ce qu'il existait ? Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'il puisse exister avant le début de ce conflit ? Écoutez, justement, comment se justifier ? Quelles étaient les explications de la ministre des Armées la semaine dernière sur France Inter, Florence Parly, qui était interrogée par Nicolas Demorand.
L'utilisation des armes, une fois livrées, est normalement encadrée. Mais les conflits peuvent évoluer. Qui pouvait imaginer la survenance de ce conflit au Yémen?
Les Yéménites peuvent prendre sur la tête une bombe française.
Et beaucoup de pays sont confrontés à cette situation que d'avoir, le cas échéant, livré des armes à d'autres pays alors que ces armes n'étaient pas censées être utilisées.
Alors dans cette courte intervention, l'interview était beaucoup plus longue, on peut la retrouver sur le site de France Inter, mais vendre des armes qui n'étaient pas censées être utilisées. Pour le grand public, ça forcément, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, Jean-Pierre Volny. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une énorme hypocrisie, c'est-à-dire on va vendre des armes, mais on peut le faire en se disant elles ne seront jamais utilisées. Mais ça sert à quoi de les vendre dans ce cas-là ?
On peut très bien utiliser des armes dans un cas de légitime défense, et c'est parfaitement autorisé et reconnu. D'ailleurs, sinon on ne vendrait pas d'armes. C'est le droit de légitime défense, l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui fait qu'on peut vendre des armes. Maintenant, on peut se retrouver dans des cas de figure où les armes qu'on a vendues, effectivement, sont utilisées de telle manière que on a des violations, que le pays attaque un autre pays. Ce qui, naturellement, n'est pas autorisé. Vous savez, des cas de figure, on a vendu des armes et on a stoppé les ventes d'armes à un moment donné, il y en a des tas. Vous avez la guerre Irak-Iran en 88, où on a arrêté nos ventes d'armes vis-à-vis de l'Irak quand l'Irak a envahi le Koweït. Vous avez donc le Mistral, qui avait été cité d'ailleurs par Florence Parly vis-à-vis de la Russie. On avait vendu des sous-marins à l'Afrique du Sud. Avant l'embargo sur l'apartheid, on a stoppé les livraisons de sous-marins à l'Afrique du Sud en 1977. Ce nombre de cas, on peut le multiplier à l'infini en réalité.
Et pour les armes qui ont déjà été vendues, est-ce qu'il y a une responsabilité du vendeur du fait de leur utilisation qui serait différente de celle qui avait été actée au moment de la vente ?
Ben non. Puisque quand vous prenez la décision de vendre, vous êtes dans une situation en droit international qui est complètement différente du moment où à laquelle vous allez utiliser l'arme. Je peux vous signer un autre exemple, c'est la guerre des Malouines. On avait vendu à l'Argentin aux Argentins des Exocets. Les Exocets ont été utilisés pour détruire une frégate britannique. Ce qui posait quand même un problème puisque c'était notre allié dans l'OTAN. Et je me souviens qu'à cette époque-là, d'ailleurs, on a aidé les Britanniques justement à contrer la menace que faisaient peser nos Exocets sur la marine britannique.
Hélène Leger ?
Oui, effectivement, c'est. Je pense, enfin, je mettrai quand même un petit bémol sur le fait que quand on sait qu'un pays, si on sait qu'un pays a pour habitude de détourner des armes qui lui sont fournies, le traité sur le commerce des armes prévoit l'obligation pour les États de prendre des mesures pour éviter le détournement des armes ainsi vendues. Mais encore une fois, je le rappelle, nous, les questions qu'on pose, c'est pas sur les chars Leclerc vendus avant le début du conflit au Yémen. Effectivement, la France, comme le dit Florence Parly, mettons, la France ne pouvait pas savoir que le conflit au Yémen allait surgir. Par contre, est-ce qu'on continue à fournir des munitions qui vont être tirés de ces chars Leclerc? Est-ce qu'on continue à fournir des munitions depuis le début du conflit, depuis la commission assez généralisée de crimes de guerre, notamment par les Émirats arabes unis, ça c'est une autre question. Et c'est une question qui relève pas seulement de la morale, c'est une question qui relève de la légalité. Est-ce que ces licences sont légales? Est-ce que les contrats conclus entre des entreprises françaises et l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, est-ce que ces contrats sont légaux? Et est-ce que la responsabilité même pénale des entreprises pourrait être engagée? On l'a fait dans un autre contexte, dans le contexte de crimes de guerre commis par Israël dans la bande de Gaza. On a effectivement accusé, on a porté plainte pour complicité de crimes de guerre contre une entreprise française. Donc y a, ça, c'est une question qui va au-delà de la morale.
Alors justement, puisque vous évoquez et la morale et la légalité, pour vous, Patricia Adam, est-ce que c'est la légalité qui doit primer avant tout? Est-ce qu'on peut quand même aussi aborder et réfléchir ces questions sur le, du point de vue de la morale?
Vous me posez une question qui est, pour laquelle les réponses ou la réponse est difficile. Bien évidemment, d'abord parce que la morale, si on applique les conventions que nous avons signées au niveau international sur les droits de l'homme, par exemple, puisque la France y a participé grandement, on peut parler là de morale. Ce qui est important aussi, et je l'évoquais tout à l'heure, la France possède des accords de défense avec de nombreux pays dans le monde. Elle possède des accords de défense avec les Émirats et ainsi qu'avec l'Arabie saoudite. Donc ces accords de défense, ils sont aussi connus de l'Assemblée nationale et du Sénat, et ils sont discutés et ils sont discutés dans l'hémicycle. Donc je pense que quand on parle d'exportation d'armement, il faut aussi le relier aux accords de défense, puisque ce sont des accords passés entre un État souverain et la France.
Donc il y a une légitimité à vendre des armes à ceux qu'on considère comme nos alliés.
Suivant ce qui est écrit dans ces accords de défense, on s'engage mutuellement dans une discussion, bien sûr, entre les deux États sur ce que nous pourrions faire ensemble. Il ne faut pas oublier aussi que, pour prendre l'exemple des Émirats arabes unis, c'est un partenaire stratégique pour la France, puisque la France possède une base navale. Une base navale aux Émirats arabes unis. Ça fait partie des accords de défense que nous avons signés avec eux. Donc on voit bien que là, on est sur des questions d'intérêt stratégique de part et d'autre. Et je pense que quand madame, vous parlez de livraison de matériel alors qu'ils sont faits... Alors bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut aller contrôler aujourd'hui ce qui se passe et s'il y a toujours... je ne crois pas, à ma connaissance d'ailleurs, qu'il y ait eu de missiles vendus à ces deux États. Donc ça, c'est un élément. Enfin, de mémoire, je n'ai pas les documents sous les yeux, excusez-moi, mais je ne crois pas que ça a été le cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas considérer aussi dans l'ensemble de la zone du Levant les livraisons que l'on peut faire aujourd'hui à l'Arabie saoudite et aux Émirats uniquement par rapport à la question du Yémen. Il y a aujourd'hui dans la zone... Je ne vais pas les citer, mais cela fait l'actualité aujourd'hui, la question de la Syrie, la question de l'Irak, ce qui se passe du côté du Kurdistan. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'autres questions qui sont posées. Donc, on a là, en face de nous, des États souverains qui doivent exercer leur souveraineté. Et c'est vrai que les livraisons d'armes se font aussi dans une volonté de stabilité de la région. Alors, je n'excuse absolument pas, quand je dis cela, ce qui se passe bien sûr au Yémen.
Mais c'est intéressant parce que ça renvoie aussi à ces deux termes qu'on utilise beaucoup en diplomatie, qui sont la notion d'intérêt et la notion de valeur. On voit aussi que ça peut s'appliquer sur la question des ventes d'armes. Jean-Pierre Molnier, est-ce qu'on peut dire que justement ce sont d'abord peut-être les intérêts stratégiques qui aujourd'hui régulent d'une certaine manière cette question des ventes d'armes, que ce soit pour la France ou que ce soit pour la plupart des pays qui en vendent justement?
Quand vous prenez une décision d'accorder une licence d'exportation, vous pouvez effectivement vous trouver devant une sorte de dilemme, qui est d'un côté le dilemme stratégique, on aide un allié, et d'autre part le dilemme, est-ce que cet allié va utiliser correctement l'arme que je lui ai vendue? Et là ça devient extrêmement compliqué. Si on revient quand même au conflit yéménite lui-même, parce que la cause de tout ça, c'est le conflit yéménite. Tout ça s'inscrit dans un cadre global qui est un conflit régional, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui se développe sur un pays tiers qui est le Yémen. Et il se trouve que chacun des pays ayant des alliés, on n'arrive pas à trouver de solution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire stopper ce conflit. Parce que la véritable question, elle est là. C'est qu'il faudrait à un moment donné avoir une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui décide déjà un embargo sur les ventes d'armes, effectivement, sur le Yémen, et qui puisse après trouver une solution politique. Et donc, on se trouve effectivement perpétuellement dans ce dilemme, parce que si on arrête de vendre des armes, il y en a d'autres qui vont continuer à en vendre, parce qu'ils ont considéré que leur allié, il faut le défendre. Donc c'est une question qui est, à un moment donné, plus large que la question de la légalité et de la morale.
Et si on se plaçait du point de vue de l'intérêt stratégique, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait considérer que la France peut être amenée à continuer à vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, parce qu'elle a un intérêt stratégique à ce que la victoire, disons, si jamais ce conflit peut se terminer par une victoire, ce qui reste encore évidemment à prouver, mais qu'elle a intérêt à ce que la victoire soit une victoire saoudienne.
Encore une fois,
c'est très cynique comme approche, mais
encore une fois, c'est une solution politique qu'on doit trouver. Donc, je suis pas sûr que ça soit la victoire de l'un et de l'autre. En revanche, ce que la France peut-être peut essayer de faire, s'il y a des problèmes d'utilisation contraire à la légalité internationale, c'est d'essayer de contraindre ses alliés à utiliser correctement les armes qui sont vendues. Parce que ça aussi, ça peut se faire quand même, hein, de la part de la France, comme de la part d'ailleurs de tous les pays qui fournissent des armes dans la région.
Hélène Leger, que pèse le droit international par rapport à ses intérêts stratégiques, intérêts économiques aussi, hein, puisque la France fait partie des gros exportateurs d'armes, même si ce n'est pas le principal, c'est les États-Unis, je crois, dans l'ordre, la Russie, la Chine, et la France vient en quatrième ou cinquième, il y a aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni.
Eh bien, normalement, le droit international devrait primer. Enfin, en tout cas, c'est le principe. Donc, effectivement, il y a les intérêts géostratégiques, il y a l'intérêt, évidemment, de la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi l'intérêt commercial, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et c'est une question qui est abordée chaque année lors de la présentation du rapport du ministère des Armées au Parlement. L'intérêt, ce qui est tout à fait légitime. Sauf que le traité sur le commerce des armes est clair. Il ne s'agit pas de faire une pondération. Au moment de la prise de décision, au moment de l'octroi d'une licence, il ne s'agit pas de se dire voilà quel est l'intérêt pour la lutte antiterroriste, voilà quel est l'intérêt financier. Bon, d'un autre côté, il y a quand même un petit risque que ce soit utilisé pour commettre des crimes de guerre. Bon, allez, les intérêts d'un côté l'emportent sur les intérêts de l'autre. Non, ce n'est pas un mécanisme de pondération qui doit guider la prise de décision du Premier ministre. C'est la notion de risque prépondérant. Dès lors qu'il y a un risque que les armes puissent servir à commettre des crimes de guerre, on n'autorise pas l'exportation. Quand bien même, on aurait besoin de vendre ces armes pour soigner nos partenaires saoudiens émiratis, quand bien même on a besoin de remplir les caisses, quand bien même on a des intérêts financiers, le risque doit prévaloir. Le droit international doit prévaloir.
Est-ce que vous avez le sentiment que le droit prévaut toujours, justement ?
Et bien en fait, c'est la question qu'on pose. Nous, on n'affirme rien, on pose une question.
Ça serait quand même mieux si les États-Unis, la Russie et l'Iran avaient signé le traité sur le commerce des armes, et ça n'est pas le cas.
Tout à fait.
Patricia Adam, en tout cas, sur cette façon, sur ces éléments qui permettent de prendre la décision, qu'est-ce que vous répondez à Hélène Leger ?
Je pense que sur la question, enfin, sur toute la zone du Levant, on voit bien que c'est pas la France seule qui peut répondre à cette question et que, comme le disait Jean-Pierre Molny tout à l'instant, la seule façon de sortir d'un conflit, c'est d'abord une sortie diplomatique. Et c'est vrai que la France doit jouer sa part dans cette sortie diplomatique et sa voix est quand même très souvent entendue au niveau des Nations Unies. Donc la seule sortie possible aujourd'hui, c'est une sortie diplomatique. Faut-il encore que les autres pays qui sont acteurs au Yémen, pour prendre uniquement la question du Yémen, respectent aussi les décisions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément qui me semble essentiel. Il ne faut pas oublier que le Yémen, ça a démarré par une guerre civile entre sunnites et chiites, et qu'après, tout s'est emballé, comme c'est souvent. Et puis, peut-être rappeler, parce qu'on cite des chiffres qui sont effectivement très importants en matière d'export, puisque la France, vous l'avez cité, est un des pays exportateurs, et compte tenu de l'importance de ces industries de défense. Quand on parle d'armes et quand on parle de livraison, attention, on ne parle pas de missiles et d'obus. On parle d'avions, on parle de navires, on parle de chars. Donc, il faut le dire, donc, les montants sont importants parce que ce sont des matériels qui coûtent très très cher, bien sûr, qui ont des valeurs nominales très importantes, mais ce ne sont pas, comme pourrait le penser peut-être des auditeurs, des armes au sens obus ou missiles.
Alors ce sont des ventes qui pèsent, hein, qui pèsent de manière importante pour le budget, enfin, en tout cas pour la richesse de la France. Jean-Pierre Molny, est-ce que c'est ce qui peut expliquer que, vous évoquiez l'embargo tout à l'heure en disant il n'y a pas d'embargo sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite par rapport à ce conflit yéménite, mais il y en a un quand même dans le cadre de ce conflit. Résolution 2216 d'avril 2015 du Conseil de sécurité de l'ONU, embargo sur les armes à destination de la rébellion Houthi, c'est-à-dire cette rébellion chiite, enfin pour résumer. Pourquoi il y a un embargo sur les armes vendues à la rébellion et pourquoi il n'y en a pas sur les armes vendues à l'Arabie Saoudite, si ce n'est parce qu'il y a peut-être des intérêts commerciaux qui seraient prédominants dans un cas et pas dans l'autre?
Ben là, on a un embargo qui portait sur la... Je dirais le début du conflit qui était sur la guerre civile. Si on devait en avoir un embargo sur les belligérants, ça nécessiterait un accord en Conseil de sécurité des Nations Unies qui serait beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à trouver. Je pense que c'est pour cette raison que l'embargo est limité.
Hélène Leger,
Oui, peut-être. Je reviens sur la question de question économique, vente d'armes. L'intérêt économique des exportations d'armement pour la France, c'est clair, évidemment. En même temps, il est clair qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. Et je dirais que les ventes d'armes, elles seront d'autant plus, on pourra continuer à vendre des armes, d'autant mieux que ces ventes d'armes sont légitimes. Donc là, effectivement, c'est une question sur laquelle il faut faire attention.
Et tout dépend ce qu'on met derrière le terme de légitimité.
Mais c'est le traité sur le commerce des armes, encore une fois, c'est ce qui a été dit. Si les armes sont vendues et qu'on a on sait que ces armes ont été vendues en contravention du traité sur le commerce des armes, à ce moment-là, il faut stopper. Et dans ce cas-là, la responsabilité, pour moi, c'est pas la responsabilité de l'entreprise. C'est l'État qui accorde la licence d'exportation. Donc c'est l'État qui prend la responsabilité, normalement.
Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est l'État que vous allez interpeller dans cette campagne que vous lancez la semaine prochaine avec ACAT, Hélène Leger.
Oui, alors c'est effectivement dans ce cadre-là l'État qu'on interpelle. À d'autres égards, on interpelle quand même les entreprises parce qu'elles ne peuvent pas se retrancher derrière des licences octroyées par l'État pour s'exonérer de toute responsabilité. Sur la question de l'embargo, l'embargo, il peut être adopté au niveau européen. Les députés, depuis 2016, les députés européens adoptent régulièrement des résolutions demandant à l'adoption d'un embargo sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Et le fait est que...
Il y en a pour d'autres pays, en tout cas Soudan du Sud, Chine, Syrie, enfin je ne vais pas faire toute la liste.
Tout à fait, oui, tout à fait.
C'est pas que l'ONU. Hein.
Non, bien sûr, il y a les embargos européens. Et le fait est que de plus en plus au sein de l'Union européenne, au sein de différents États, notamment je pense à l'Allemagne, je pense à la Finlande, etc., les autorités commencent à se rendre compte que peut-être effectivement il y a un petit problème avec le fait de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Et certains ont annoncé une suspension, à tout le moins de l'octroi de licence, voire des livraisons. Le fait est que cette question n'est même pas débattue en France. Et c'est ça, et c'est là-dessus qu'on travaille notamment avec Amnesty International pour l'instauration d'un débat public sur cette question.
Il faudrait peut-être d'ailleurs que ce débat soit aussi un débat européen, au moins au niveau du Parlement européen, Patricia Adam. Est-ce qu'il y a un manque de coordination, par exemple, sur le sujet ?
C'est clair, le Parlement européen, je dirais, n'a pas de commission de la défense, n'a pas de commission des affaires étrangères non plus. Et donc, il y a peu de débats sur les questions de défense au niveau du Parlement européen. Bon, c'est un constat, tout simplement parce que la défense est une affaire régalienne de chaque État et que ça ne relève pas des compétences du Parlement européen, il faut quand même le dire. D'autre part, je voudrais aussi rectifier, puisque j'entendais Madame parler de l'Allemagne qui a pris un certain nombre de décisions. Je rappelle simplement que l'Allemagne, en termes d'export, exporte autant que la France, voire plus certaines années.
Donc c'est un gros exportateur également. Toute dernière question, Jean-Pierre Molny, de pur béotien. La loi de programmation militaire qui vient d'être annoncée avec un important, de très importantes sommes pour la rénovation de l'armée française et donc de son matériel, ça va contribuer, j'imagine, à ce qu'il y a une partie du matériel qui soit inutilisée par l'armée. Est-ce que la régulation du matériel qui ne sert plus c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à la casse? On le revend à d'autres pays? Est-ce que ça, c'est une question qui se pose ou pas du tout?
Bah, généralement, on l'envoie plutôt à la casse. On fait quand même parfois de la revente, effectivement, de matériel d'occasion.
Avec c'est le même mode de régulation le...
Ah oui, 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 tout est... Tout passe par ce qu'on appelle la commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels de guerre. Donc il faut des licences d'exportation, toujours.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jean-Pierre Molny, Patricia Adam, Hélène Leger. Merci à nos camarades de France, Vorez, Isel Quimper, qui assurait le duplex. Merci également à toute l'équipe du Grain. Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster, Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Pascal Baudin. Émission que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre.